Et bonjour, bonjour tout le monde. C'est le printemps, il fait beau. Bonjour Rafik.
Bonjour David.
Et bonjour professeur Desbrosses.
Bonjour David.
Oh, comme c'est chouette. Le soleil brille, les mouches pètent, les abeilles volettent.
Je crois qu'il faut remonter en 2019 pour avoir un podcast Total Tracks qui démarre à peu près normalement.
Non, c'est fini.
C'est terminé ça.
Mais franchement, cette musique champêtre, composée par Jerry Goldsmith, hein, c'est pas très surprenant, nous met le cœur en joie. Et j'espère aussi nos êtres de lumière qui aiment la lumière du printemps, le soleil, les arbres verts.
Bah, ils sont la lumière déjà, donc ce sont eux qui font grandir les arbres et les belles plantes. Nos êtres de lumière, ce sont les contributeurs de Total Tracks,
les
mécènes, les producteurs, les bienfaiteurs de cette émission, ceux qui, chaque mois, se rendent sur la plateforme Tipeee.com ou la plateforme Patreon.com pour nous donner des sous et permettre à ce podcast d'exister. Et nous leur sommes éternellement reconnaissant.
Mais professeur Desbrosses, ils nous donnent des sous, mais qu'est-ce qu'ils ont en contrepartie ?
Plein de belles choses.
Par exemple ?
Par exemple, l'accès au Discord.
Ah bah ça, c'est bien.
Ils peuvent échanger, partager, discuter,
partager leur lumière.
Des blind tests. Bah,
déjà, ils reçoivent les épisodes avant tout le monde.
C'est ça.
Préciser.
Une semaine avant.
15 jours avant.
15 jours avant, oui. Ils peuvent aussi partager leurs achats. Parce que figurez-vous que chaque épisode de Total Tracks se transforme du côté des contributeurs par un déluge d'acquisition de disques.
Tu veux dire qu'on pousse à la consommation.
Mais carrément, on devrait toucher un pourcentage dessus, en fait.
Sachant qu'effectivement, oui, on ne gagne rien sur la transaction. Ils ont également accès à des épisodes inédits qui ne sont pas publics, notamment une série consacrée au générique des James Bond, mais aussi une série consacrée à des films de science-fiction de la fin des années 70 qui s'appelait Star Wars.
La guerre des étoiles.
La guerre des étoiles et l'Empire contre-attaque.
Et le retour du Jedi en 2024.
Bientôt.
Ils ont accès à des playlists également préparées avec amour par le professeur Desbrosses.
Tout à fait.
Voilà, donc ils se sentent non seulement privilégiés, mais en plus, ils nous irradient de leurs bienfaits, de leur bienveillance. Donc on est bien, bien content de les avoir et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à contribuer à soutenir Total Tracks parce qu'on a besoin de ça pour continuer, être motivé.
Continuer à avoir des partenariats avec des concerts comme celui justement qui était consacré à Star Wars.
Voilà, d'ailleurs, ça c'est vraiment pour les contributeurs parce que je pense que pour la mise en public de l'épisode, ce sera trop tard. Il y a encore des places à gagner.
Oui.
Et puis, il y a encore des places à vendre aussi si vous voulez venir au concert.
Très bien, très bien. On a hâte de vous retrouver à ce concert Star Wars. Pour ceux qui ne contribuent pas et écouteront le podcast trop tard, vous inquiétez pas, il y aura de tas d'autres occasions de venir nous serrer la pince. Maintenant, on en a pris l'habitude, on va parler de Jerry Goldsmith et de Joe Dante.
On aime bien parler de ces deux-là, aller comprendre pourquoi, ils nous tiennent chaud au cœur. On a déjà bien brossé une bonne partie de leur carrière sur les deux précédents. Je pense aussi que les chefs-d'œuvre immortels sont déjà passés. Donc...
Voilà. Ouais, enfin, il nous reste encore un très bon film.
Mais il nous reste au moins un très très bon film à traiter, qu'on va traiter tout de suite d'ailleurs, puisqu'on a démarré, dessus. Le morceau qui vous a accueilli, c'est un morceau de ce film-là.
Qui s'appelle Matinée, en français Panique sur Florida Beach.
Ah oui, c'est
un titre très malheureux.
C'est bien vu ça encore. Oh là.
Vraiment. Et c'est plus qu'un bon film pour moi, c'est le film le plus personnel de Joe Dante, sans aucun doute.
De toute évidence, oui.
Et c'est un film qui raconte des choses qui ne sont pas souvent racontées au cinéma.
Bah, surtout avec ce point de vue-là, en fait.
C'est clair. C'est un film, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui se passe durant la crise des missiles de Cuba entre l'Union soviétique et le gouvernement de Kennedy.
En octobre 62.
Période durant laquelle, il faut le rappeler, le monde se croyait au bord de l'apocalypse thermonucléaire. Et c'est aussi une période où est en train de se développer aux États-Unis une forme de culture qui n'a pas encore trouvé de nom, qui sera nommée bien, bien plus tard. On l'appellera la culture geek vers la fin des années 70, début des années 80, qui sont en fait tous ces gamins nés après-guerre et qui en fait ont redécouvert la culture pulp de leurs parents, se la sont complètement appropriée. Et ces mômes ne sont pas dans la terreur des adultes en fait. C'est-à-dire que quand on leur parle de Spoutnik, ils n'ont pas peur, ils ne voient pas une arme dans le ciel, eux ils voient un satellite dans l'espace. Et ces gamins sont fascinés donc par le cosmos, par les aliens, les extraterrestres, les super-héros, les monstres.
Et l'énergie atomique.
Et l'énergie atomique. Puisque c'est un peu au cœur du film. Qui fait pousser des fourmis géantes, quoi. Tu vois, cette débauche d'imaginaire, en fait, plaquée sur la période de crise qu'ils traversent, est quelque chose qui avait effectivement pas été raconté nulle part. Même en littérature, j'ai pas l'impression que ça avait été abordé aussi frontalement. Et Joe Dante ayant d'une certaine manière grandi de cette façon-là.
C'est pas d'une certaine manière. Lui, il se souvient de la crise des missiles de Cuba qu'il a vécu à peu près comme les gamins dans le film, en fait.
C'est ça. Matinée, en fait, c'est le nom qui est donné aux séances matinales du samedi qui, justement, avaient l'habitude de proposer ces films de SF un peu désuets.
Voilà, qui sont en réalité des séances de l'après-midi.
Et ça se passe donc dans une petite communauté. Évidemment, on est chez Joe Dante, donc on est dans une petite communauté.
Oui, c'est typiquement américaine, on est encore dans la banlieue, quoi.
De la middle class, voilà. À la veille de la projection d'un film entre guillemets événement qui s'appelle Mount, un film de monstre avec un homme transformé en fourmi. Et en fait, ben, en gros, il y a une partie de la communauté de cette ville qui ne veut pas de la projection de ce film-là. Et en même temps, ce film va être présenté par son réalisateur, l'exceptionnel
Laurence Woolsey.
Laurence Woolsey, magnifiquement incarné par
John Goodman, qui est réalisateur, producteur, qui est calqué directement sur un personnage qui a existé, qui s'appelait William Castle.
Tout à fait.
Et donc, ce que je disais tout à l'heure de Joe Dante, qui clairement se met en scène dans tous ses films, d'une manière ou d'une autre, il incarne une partie d'un ou plusieurs personnages. Et là, c'est clairement à la fois le gamin qui est le héros du film, qui doit avoir une douzaine d'années, qui vit avec sa maman et son petit frère, et son papa, lui, est parti affronter les communistes au large de Cuba, donc on ne le voit jamais dans le film. Joe Dante, c'est lui, mais c'est aussi le personnage de Laurence Woolsey. Clairement, le réalisateur qui a une approche du cinéma qui est assez proche de ce qu'était le carnaval à l'époque, c'est-à-dire un truc très sensationnaliste, mais dans le bon sens du terme, d'une certaine façon. C'est-à-dire quelqu'un qui va, en plus d'un film qui joue sur les peurs du public, sur la peur du nucléaire, etc., mettre dans la salle plein d'effets, de trucs électriques sous les chaises, d'effets de fumée, d'effets de tremblement qui rappellent un peu ce que fera Universal dans les années 70 avec le Sun Surround.
Avec le film Tremblement de terre.
C'était pas le seul, William Castle, il y en a un certain nombre qui ont fait ça, et c'était une époque où le cinéma populaire avait quelque part sa place dans les cinémas des États-Unis. C'est jamais vraiment arrivé en France. Hein.
Mais c'est un personnage qui a marqué toute une génération, au point d'ailleurs qu'un type comme Robert Zemeckis a basé une partie de sa carrière sur l'héritage de William Castle, et notamment en rachetant et en remakant beaucoup de ses films. Donc c'était Le Manoir aux fantômes, ce genre de films-là. Voilà. Dans l'histoire du cinéma, William Castle est connu comme étant le type qui avait mis en option le fameux script de Rosemary's Baby et qui pensait le réaliser lui-même, mais il était bien trop... fantasque et bien trop forain, on va dire, pour les majors de l'époque, et d'une certaine manière il a été un peu écarté du projet. Enfin, c'est un projet qui lui a été d'une certaine manière subtilisé par le producteur Robert Evans, qui a préféré le confier à Roman Polanski pour le résultat qu'on sait. Et ça a forcément donné un autre film que celui que Castle avait en tête. C'est un personnage truculent, et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a quelques mois ou quelques années, je sais plus, Internet a redécouvert que William Castle avait aussi inventé le bullet time de Matrix dans un film qui s'appelle Zods de 1962, où un personnage évite les balles au ralenti. Sauf que c'était fait avec les moyens du bord, c'était forcément un peu plus drôle que dans Matrix.
Voilà, donc dans le film, on a John Goodman, comme disait Rafik. On a aussi Cathy Moriarty, qui fait sa compagne, qui est une comédienne, elle est assez exceptionnelle dans le film. On a dans le rôle du jeune garçon Simon Fenton, et puis on a aussi évidemment Robert Picardo, enfin toute la bande
de copains.
Et une apparition pour la première fois dans un film américain d'une certaine Naomi Watts, qui apparaît dans un faux film projeté au cinéma, qui est un faux film Disney, dans la lignée des comédies Disney pourries des années 60.
Où t'avais toujours un personnage, je sais pas, un personnage de mère qui se transformait en chien, ou ce genre de truc-là. Là, c'est son mari qui s'est transformé...
C'est son oncle,
qui s'est transformé en caddie de supermarché.
C'est ça.
Ça s'appelle The Shook-Up Shopping Cart.
Et il y a 5 minutes du film qui sont assez drôles, quand même.
Et qui ont été effectivement tournées. Cette émission a été pour moi l'occasion de découvrir qu'il existait un site qui s'appelle Netflix.fun et qui en fait se présente sous l'allure d'un Netflix qui ne proposerait que ces films qui n'existent pas, mais dont on entend parler dans les autres films en fait. Et ils ont The Shook-Up Shopping Cart. Et donc l'autre film dans le film, c'est bien sûr le fameux Mount, qui est censé être projeté dans le film de Joe Dante, mais qui a une nécessité d'être tourné pour être justement projeté aux enfants dans le film.
Oui, et le film est dispo en bonus sur le Blu-ray.
Tout à fait.
Et il dure presque 20 minutes, hein. Donc c'est quand même presque un vrai film quelque part.
Il faut rappeler que Joe Dante avait participé à un film choral, un film bordélique qui s'appelait Amazon Women on the Moon, qui a été co-réalisé avec Carl Gottlieb et d'autres, John Landis. Et en fait, Amazon Women on the Moon, chez nous, était sorti sous le titre Cheeseburger Film Sandwich, comme s'il s'agissait de la suite de Hamburger Film Sandwich, ce qui n'était pas du tout.
Bah non, c'est juste le fait que c'est des films à sketch, quoi.
C'est ça. Et Joey Dante, déjà dans Amazon Women on the Moon, montrait qu'il avait un goût certain pour recréer des faux films des années 50. Il y avait notamment cette magnifique version du Fils de l'Homme Invisible, qu'Alain Chabat a beaucoup vu, avec un personnage qui pense qu'il est invisible alors qu'il ne l'est pas du tout, et qui se balade à poil dans la ville, quoi. Et aussi un faux film éducatif avec une Carrie Fisher qui monte en ville et qui devient une fille dévergondée, mais dévergondée version années 30, quoi. C'est-à-dire, en fait, elle fait rien de mal, mais elle a particulièrement honte d'elle-même. Et donc, Mante, pour lui, c'est évidemment l'occasion de s'amuser à refaire un film d'horreur en noir et blanc des années, des années 50, quoi.
Ah bah, dans chaque film de Joe Dante, il se fait plaisir. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un nouvel aspect de sa passion dévorante pour le cinéma et de sa geekitude. Hein. Et à chaque fois, il trouve un nouvel aspect à développer. Et là, c'est vrai qu'il revient aux sources avec Panique sur Florida.
Voilà, mais alors qu'à côté de ça, c'est un petit film. Ça s'est avéré finalement être un film de studio parce qu'en fait, la boîte de prod qui avait les droits du film a coulé.
A fait faillite. Ouais.
Et comme Universal avait mis un peu de sous dans le film.
Ça devait être distribué par Universal.
Voilà, et Dante les a convaincus de financer la totalité du film. Et ils l'ont bien regretté après parce que ça n'a pas été un carton du tout. Mais il a réussi à faire le film comme ça. Mais lui, il a toujours vu ça comme un film indé en fait.
Et ça, c'est très clairement un film indé.
C'est clairement un film indé. Le film est assez nostalgique.
C'est ça. Contrairement donc au film type Gremlins, type L'Aventure Intérieure, qui sont des vrais, d'une certaine manière, blockbusters familiaux, il est évident que, de par son sujet, Panic sur Florida Beach ne s'adresse qu'à un public restreint, puisque c'est basiquement un film sociologique, en fait. C'est qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens durant cette crise-là, et comment les enfants de l'époque ont géré, en fait, mentalement ce passage difficile, et comment ça a impacté la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est un film qui ne pouvait être possible qu'en 1990, en fait, Panic sur Florida Beach. Dans les années 70 ou 80, on n'avait pas encore la même maturité par rapport à cette histoire pour pouvoir avoir ce regard-là, en fait. Ce regard un peu décalé. C'est pas un film sur la crise des missiles de Cuba, mais cette crise, elle est omniprésente dans le film. On sent que derrière la joie de vivre, derrière la nostalgie, il y a aussi cette angoisse. Et du coup, cette idée que toute cette culture populaire, c'est une négociation avec l'angoisse.
C'est très intéressant ce que tu racontes.
Oui, je suis passionné.
Foutez-vous de ma gueule.
Pas du tout. Mais pas du tout, c'est vrai en plus. Non, mais il y a un film, évidemment, qui a deux dimensions. La dimension politique, qui est réelle, hein, dans le film. D'ailleurs, Joe Dante a toujours été un réalisateur politique.
Avec même la mise en scène d'une famille que les États-Unis de l'époque auraient qualifié de communiste, d'ailleurs, à travers le love interest, puisque évidemment le personnage du gamin est plus ou moins un crush pour une jeune fille un peu rebelle.
Voilà, qui est directement étiqueté communiste, d'ailleurs. Et à côté de ça, il greffe sur le film ses obsessions de geek avec l'arrivée du producteur en ville pour présenter son film et la projection elle-même. Mais on va peut-être déjà écouter un petit
morceau.
Mais oui,
ça serait pas mal, parce qu'on en a écouté un dans l'intro de cet épisode.
Voilà, mais il y en a d'autres.
Mais il y en a d'autres.
Parce qu'encore une fois, Goldsmith, il a fait que du bien. Alors cette fois-ci, c'est plus la banlieue, mais c'est une petite ville de province qui est dans les Keys, donc ces îles qui sont au sud des États-Unis.
À cheval entre l'océan Atlantique et le golfe du Mexique.
C'est exactement ça. Ça reste un décor de petite ville de province pour le coup. Et donc Goldsmith, il fait sa musique de petite ville de province, comme il fait à chaque fois pour Joe Dante. Et on va l'écouter maintenant. C'est un morceau qui s'appelle Coming Attraction, qui est en gros le thème principal du jeune garçon héros du film. Et c'est aussi la musique de cette petite ville de province. Et c'est un thème à la fois lyrique et nostalgique, et même tire un peu parfois vers la mélancolie, parce que c'est aussi l'état d'esprit dans lequel est le personnage. Il est plus fasciné, comme disait Rafik, comme étaient les geeks à l'époque, par l'énergie atomique et ce que les films que lui a tellement envie de voir en font. Mais son petit frère, lui, il a très très peur de la possible guerre nucléaire, et donc la partie mélancolique, elle est plutôt attachée au petit frère, en fait. Voilà, donc on écoute ce morceau qui s'appelle Coming Attraction.
C'est parti!
Voilà, donc terrain commun, musical, encore une fois, oui. mais encore un morceau et une thématique différente des films précédents. Goldsmith, il n'est pas avare en thème. Hein, donc,
oui, on est bien chez Joe Dante et Jerry Goldsmith. On s'y sent bien, on s'y retrouve bien.
Petite banlieue confortable qui cache bien son angoisse.
C'est ça.
Comme d'habitude.
C'est ça. Sachant que le thème qu'on a entendu en tout début d'émission et qu'on vous remettra tout à l'heure dans une autre version est l'autre thème principal du film qui est celui de Lawrence Woolsey, de John Goodman, de son côté un peu battleur et un peu fête foraine.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film-là-bas ? À part que c'est évidemment un catalogue ininterrompu de citations et de références à toute une culture de cette époque-là.
Donc ça a été filmé plutôt sur place, dans les Keys, en Floride, en décor partiellement réel et aussi au studio Universal. Et donc il y a un truc qui va avoir un impact important dans le film pendant la projection de Mount, c'est le Rumble-rama. C'est l'équivalent de tout ce que William Castle avait fait en termes de gimmick pour faire peur aux spectateurs. Le truc était installé dans la salle, qui avait plein de noms. Il y avait Illusion O, il y avait Shock Sections, il y avait Percepto, il y avait plein de trucs comme ça.
C'était sur le film The Tingler, je crois, où il avait installé des trucs électriques sur les fauteuils.
The Tingler, ouais.
Voilà, et ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi la réaction du public, qui est évidemment décuplé à la fois par ses effets physiques dans la salle, puisqu'il y a même un mec qui est déguisé en Mount à un moment, mais aussi parce que tout ça est lié à l'énergie atomique, que le film commence par une explosion atomique et que c'est un rappel de leur peur. Et c'est pas un hasard si ils choisissaient ces sujets-là à l'époque, parce que c'était des sujets d'actualité, en fait.
Bien sûr.
Je crois que Castle a été un des premiers à essayer aussi de ce qu'on appelle l'image subliminale dans ses films, sauf que ça marchait pas du tout. mais il y avait le mot death qui apparaissait comme ça sur un photogramme. Bah bref, c'est un vrai forain quoi, qui essayait tout et n'importe quoi.
Voilà, c'est ça. Et le personnage de John Goodman, c'est vraiment ça, mais il le campe avec une vraie bonhomie et en plus un sens de la débrouille. C'est-à-dire que Rafik disait tout à l'heure, il y a des gens qui étaient opposés dans la ville à la projection du film parce que c'est le mal, etc. Sauf qu'en fait, ces gens-là, c'est Dick Miller et John Sayles, qui est un vieux copain de Joe Dante,
de l'époque,
qui est aussi,
Corman,
qui est aussi réalisateur
et surtout scénariste. Hein.
Et ils font tous les deux des personnages qui en fait ont été embauchés par Lawrence Woolsey pour jouer les opposants, pour créer du buzz autour du film. C'est-à-dire qu'on est très longtemps avant les réseaux sociaux, mais déjà on a la même mécanique qui est en place en fait. Et il y a plein de petits détails comme ça dans le film qui sont assez charmants en fait.
Cette petite astuce bien réelle de William Castle d'embaucher des gens pour militer contre son film, elle a été réemployée par Kevin Smith à l'époque de la sortie de son film Dogma, qui avait un peu choqué l'église. Il a été lui-même manifesté contre son film en fait, et il a réussi à se faire interviewer par la télévision pour dire tout le mal qu'il en pensait.
Il était bon à cette époque. Ça c'est bien, bien joli, mais Jerry Goldsmith dans tout ça.
Et bien alors, justement, le cœur du film, c'est évidemment la projection de Mount et de tout ce qui va mener à la destruction du cinéma, parce qu'en fait, il y a tellement d'effets sonores, il y a tellement de vibrations que le balcon va finir par tomber.
Oui, c'est Robert Picardo, encore lui, qui fait le directeur du cinéma, si je me souviens bien.
C'est ça, il a surtout un bunker dans lequel il veut s'enfermer parce qu'il pense que les vibrations du cinéma, c'est l'attaque qui vient de Cuba, et donc il veut s'enfermer dans son bunker. Et donc Goldsmith a refusé de mettre en musique le film Mount en disant que ce qu'il ferait serait pas aussi réaliste que ce qu'il y avait dans les films d'époque des années 50 et des années 60. Et donc, au lieu de ça, ils ont utilisé des vrais morceaux de vrais films qui ont été arrangés et réenregistrés pour matinée.
La musique de Goldsmith, elle est là pour appuyer le côté justement nostalgique du film. Très clairement, c'est une musique douce, hein, essentiellement.
C'est ça, à part matinée. La musique de Lawrence Woolsey qui est un petit peu plus, pas vraiment comique, mais un peu plus légère. Le reste, oui, c'est un peu mélancolique en fait.
Ouais, enfin, Goldsmith, c'était quand même très modeste, de ne pas vouloir tenter de faire une musique.
Il y avait un vrai gros effort qui était fait pour que ça ressemble vraiment de manière réaliste au film de l'époque. Et c'est effectivement très très bien fait. Dans un beau noir et blanc, tout ça a été évidemment tourné avant le tournage principal, puisqu'il fallait que le film soit prêt pour être projeté. Et on le voit quasiment en entier, en section, dans le film final, quoi. Et c'est étonnant, le seul film de Dante qui n'a pas été enregistré en Californie. La musique a été enregistrée au studio de Whitfield Street à Londres. Parce que Jerry, il enregistrait beaucoup à Londres, mais pour Dante, je sais pas. Peut-être que c'était simplement des films qui avaient un budget suffisant pour qu'il enregistre à Los Angeles, parce qu'en général, les gens qui se déplaçaient à Londres, c'était plus pour des questions d'économie. Et donc, Dante disait aussi, et c'était pas forcément à propos du refus de mettre en musique Mount, il disait de Goldsmith que Goldsmith avait aussi un talent particulier pour savoir exactement où ne pas mettre de musique. C'est-à-dire que quand il voulait pas mettre de musique, il en mettait pas, et Dante l'obligeait pas parce qu'il lui faisait confiance. Et effectivement, a priori, vu comment ça se passait entre eux sur les films, c'était la bonne optique, en fait. Il avait la bonne vision des choses.
C'est un film, bon, déjà, il faut préciser qu'il n'avait pas vocation à cartonner, hein, non plus. Enfin, voilà, Universal, ils l'ont sorti, mais les résultats ont été sympathiques, mais c'est un film qui s'adresse essentiellement à des gens qui sont déjà familier du cinéma ou qui aime l'idée même de cinéma.
Oui, bah, sympathique, c'est pas si sympathique que ça parce que le film a coûté 14 millions, il en a rapporté que 9. Donc c'est même moins que sympathique en fait.
Mais il a eu un bon accueil critique.
Ouais, c'était de toute façon un film sur lequel il comptait pas faire à des millions.
Non.
Il y a un magnifique Blu-ray chez Carlotta qui ont sorti pratiquement tout Joe Dante.
Les banlieusards, c'était où?
Ouais,
déjà
alors très beau coffret aussi des banlieusards. Voilà. Et là, on écoute quoi ?
Bon, on va écouter le générique de fin, qui encore une fois récapitule, comme le font si bien les génériques de fin de cette époque-là, à la fois le thème de la petite ville qui est aussi associé au héros Jean, mais également le thème de Laurence Woolsey qu'on n'a pas vraiment écouté jusqu'à présent et qui présente encore une autre facette de Jerry Goldsmith. Le morceau s'appelle « Next Attraction ». Thank you.
Professeur, vous avez quelque chose à ajouter, je crois.
Ouais, il y a un truc assez particulier aussi sur la scène finale qui met en avant encore le fait que c'est un film de Joe Dante. C'est que la scène finale, on voit le producteur Laurent Soulzé avec son épouse qui va partir en voiture et qui dit au revoir au gamin. Et derrière, on voit passer un hélicoptère, sachant que la crise des missiles entre-temps s'est terminée, tout le monde respire. Et en fait, l'hélicoptère, il est là, selon Joe Dante lui-même, pour symboliser le fait qu'on n'est pas loin de la guerre du Vietnam et qu'en fait, pour lui... Dante, en tant que réalisateur du film, la plupart des gamins qu'on voit dans le film, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui ont des rôles importants dans le film, ne vont pas arriver jusqu'à l'âge adulte parce qu'ils vont aller au Vietnam et qu'ils vont y mourir. Donc c'est super dark en fait. Et tout ça sans aucun dialogue, juste parce qu'il y a un détail dans la scène qui te souligne qu'il y a autre chose qui est déjà en train de se mettre en place alors que la crise vient de se terminer en fait. Donc c'est quand même assez riche le cinéma de Joe Dante.
C'est très riche.
Et ça c'est un exemple, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas mentionnées et qui méritent d'être analysées clairement dans tous les films de Joe Dante.
Exactement. Et d'ailleurs on va pas parler de son film suivant qui n'est pas un film cinéma mais qui est un téléfilm et qui est un excellent téléfilm que je vous recommande qui s'appelle The Second Civil War dans lequel à nouveau il s'attaque à un sujet totalement politique.
Ah, c'est son film le plus politique certainement.
Et donc avec un casting complètement délirant, il y a un nombre d'acteurs là-dedans.
C'est une sorte de Docteur Follamour réinventé un peu.
Exactement, avec donc un des États d'Amérique qui fait sécession et ça part en cacahuète et c'est très 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 drôle et c'est très très bien. Mais par contre, c'est pas une musique de Goldsmith.
Mais non, parce qu'il avait pas le budget pour avoir Goldsmith en fait, donc il savait qu'il fallait un minimum pour Goldsmith, donc quand il pouvait pas, il pouvait pas. C'est mis en musique par Umi Mann.
Bah, qu'on aime beaucoup.
Qui est un orchestrateur assez prestigieux à Hollywood, qui a bossé pour Poulet Doris, entre autres. Et la musique est bien, d'ailleurs. Hein.
Umi Mann a fait aussi la musique d'un film qui s'appelle Year of the Comet, qui est un film de Peter Yates. Donc après Second Civil War, qui sera pas mis en musique par Jerry Goldsmith.
Voilà, un autre film avec Jerry Goldsmith, qui est peu ou prou Gremlins 3.
Ouais, un remake de Gremlins, mais version technologique.
Voilà, qui s'appelle Small Soldiers.
Et qui est une production qui a assez clairement été lancée pour booster, en gros, le studio DreamWorks, cofondé par Spielberg, qui, pour on va dire son premier line-up, avait besoin de projets high profile. Hein. Ils avaient produit Deep Impact, notamment gros film catastrophe de l'époque. Et Small Soldiers était censé aussi être un des gros films comme ça de ce lancement.
Voilà, et c'est encore une fois un excellent film.
Moi, j'aime
c'est
beaucoup. Très sympa.
Beaucoup Small Soldiers.
Alors je le trouve un tout petit peu en dessous du Gremlins.
Oui, assez clairement. Oui.
Mais ça reste quand même hyper jouissif. En fait, c'est un film jouissif.
C'est ça, c'est fun. Et puis vu les conditions de production, parce que ça n'était pas une production sans problème. Pour le coup, contrairement à tout ce qu'il a fait avec Spielberg avant, là, Spielberg n'était plus l'écran protecteur et il lui a carrément dit, puisque Spielberg entre-temps était en train de se mettre un peu en retrait de DreamWorks, et Spielberg lui a dit « Tu ne viens pas me voir, sauf si c'est vraiment absolument nécessaire. » Il avait d'autres choses à faire, en fait. Il n'avait pas l'esprit à ça, il n'était pas vraiment producteur sur le film, donc Joe Dante, il s'est retrouvé un peu tout seul. Et il y a eu des problèmes sur la prod, d'ailleurs, avec le studio.
Bah oui, d'autant plus que, bah, il faut le dire, hein, c'est quand même un projet qui se voulait ultra opportuniste. Enfin, c'est à la fois un film qui va gentiment condamner les liens étroits entre l'industrie de l'armement et celle des jouets, quoi. Et en gros, tout le business de la guerre vendu aux enfants. Et en même temps, le film, c'est littéralement ça. La mise en boîte à laquelle le film prétend, elle n'a jamais vraiment lieu, parce que ça reste un film qui est quand même là pour te vendre du jouet, quoi.
Oui, sachant que les jouets n'ont pas été si vendus que ça au final.
Non, non.
Puisqu'il y avait un partenariat avec Burger King, sauf que le film n'a pas été classé PG.
Parental Guidance, ouais.
Contrairement à ce qui était prévu. Et que du coup, ils ont fait un peu machine arrière, même si ils proposaient quand même des jouets Small Soldiers dans les restaurants. Tout ça a été un petit peu compliqué parce que le scénario et l'approche du film a changé plusieurs fois sur insistance du studio, puisqu'au départ, Dante devait faire un film qui touchait en priorité d'abord les ados, voire post-ados, un truc un peu plus edgy, en se disant que c'était ceux qui étaient les plus difficiles à conquérir et que ce que eux regarderaient, de toute façon, les plus petits regarderaient aussi. Sauf qu'au final, le film est un peu entre les deux, mais il ne sait jamais trop sur quel pied danser, en fait.
Ah oui.
Et d'ailleurs, ils ont coupé beaucoup de séquences avec de l'action et des explosions parce que ça devenait trop violent pour les gamins. J'aimerais bien les voir, moi, ces scènes-là.
Donc, on raconte vaguement le pitch. Donc, c'est voilà, une société, un gros fabricant de jouets qui ont l'idée de proposer des jouets qui jouent avec les enfants.
Et c'est une boîte qui vient d'être rachetée par une énorme société qui fait aussi de l'armement.
Exactement.
Et ils vont avoir accès à toute la logistique de cette boîte-là. Et ils font usage de puces qui sont en réalité des puces de roquettes ou de trucs de combat qui apprennent.
Des sortes de petites intelligences artificielles.
Et qui et qui évolue, et ils vont équiper les jouets avec ça, et ça va très très vite partir en vrille, alors même que les jouets sont pas encore officiellement sortis.
Exactement.
Et donc dans cette collection de jouets qu'ils sortent, il y a donc une série de soldats, et puisque dans ces jouets-là il y a toujours des méchants, en gros on crée pour ces soldats-là des méchants qui sont des monstres, donc qu'on appelle les Gorgonites.
Voilà, sachant que les soldats c'est le commando élite.
Le commando élite, et ces commandos élites sont programmés pour chasser les Gorgonites. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'une fois les boîtes envoyées dans les magasins, les soldats vont pas attendre d'être activés parce qu'il s'agit de buter du Gorgonite, et basiquement ce sont eux, ces soldats, qui vont devenir les méchants de l'histoire, puisque c'est eux qui vont en gros mettre à feu et à sang petite banlieue où notre récit se déroule.
C'est le message d'ailleurs de Joe Dante, c'est que les gens en uniforme sont pas forcément les bons, et que les gens avec la gueule de travers sont pas forcément les méchants.
Donc là le goût de Joe Dante pour tout un cinéma de frics, de monstres, revient à la charge. Il est évident que les Gorgonites, ce sont ses préférés, ce sont ses copains.
Je pense que Goldsmith avait aussi choisi le camp Gorgonite.
Voilà. À tel point d'ailleurs qu'on a un Gorgonite qui est composé en gros d'un œil avec des pattes, qui est absolument obsédé par les films d'horreur qui passent à la télévision.
Oui, et il s'appelle Ocula.
Voilà, une image à peine éloignée de celle qu'on avait dans Panic sur Florida Beach quelques temps auparavant.
Est-ce qu'on écouterait un petit morceau ?
Ah oui, démarrons sur un petit morceau parce que ça vaut le coup.
Alors, écoutons le morceau de la petite ville de province.
Oui.
Parce qu'il y en a un encore
pour changer.
Fois, qui est un morceau qui présente en gros le thème de Alan Abernathy, qui est le fils de quelqu'un qui
possède une boutique de jouets.
Un magasin de jouets, qui ne veut pas vendre de jouets guerriers.
Non, surtout
pendant
pas.
Que son père est en voyage, il va quand même accepter un lot de Gorgonites et un lot de commando élite, et c'est là que ça va partir en vrille, puisqu'il les a avant la mise en vente. Et heureusement, parce que les jouets n'ont pas encore été vendus ailleurs. Donc il va bien regretter en fait, et il convainc le livreur qui est joué par Dick Miller de lui laisser ces jouets-là pour que sa boutique, pour une fois, fasse de l'argent. Et donc, c'est une scène où on le voit se rendre en vélo à la boutique, je crois. Et c'est de la pure musique de petite banlieue américaine à la Goldsmith Dante.
Ah bah c'est parti.
Et ça s'appelle Allenstown.
Depuis Poltergeist, depuis Explorers, etc. etc. Dès qu'il y a un gamin sur un vélo, Goldsmith, il sait faire.
Oui, mais à chaque fois, il fait un truc toujours dans un ton qui est, on va dire, de la même famille, mais c'est jamais la même chose.
Ah oui, oui, c'est ça qui est chouette. Et c'est toujours aussi agréable à écouter.
Voilà, même si les vraies stars, ça n'est pas les gamins, ça n'est pas tous les acteurs qu'il y a dans le film, parce qu'il y a évidemment...
une tripotée d'acteurs, comme d'habitude.
Il y a des nouveaux, il y a Kevin Dunn qui fait le père.
Ah, puis il y a l'histoire tragique de Phil Hartman.
Donc c'est le dernier film.
C'est le dernier
et
film.
Et qui a été assassiné par sa femme quelques mois après,
exactement,
avant la sortie du film.
Alors Phil Hartman, c'est vraiment triste parce que c'est un acteur extraordinaire. Il venait du Saturday Night Live, comme beaucoup dans les comédies américaines. Il est génial. Et en plus là, il joue le voisin chiant en fait. Et il est super drôle.
Voilà, mais c'est pas lui, ni aucun des humains, la star du film. Les stars du film, c'est...
les jouets.
Les jouets. Donc, il s'amuse beaucoup aussi, Dante, à faire son casting de voix pour les jouets.
Ah ouais, alors là, il s'est lâché.
À l'origine, il avait pensé à la troupe de comédiens de Predator pour les commandos élites.
Voilà,
ça,
mais
c'est pas
fait. Ils ont pas voulu.
Ils ont pas voulu. Du coup, il s'est rabattu effectivement sur des comédiens qui étaient un petit peu à la retraite, il faut le dire.
Voilà, mais expérimentés.
Ouais, mais enfin, quand même, Tommy Lee Jones en leader, déjà.
Le reste du casting, c'est les 12 salopards, en gros.
C'est ça, ouais.
C'est les 12 salopards. C'est Ernest Borgnine, George Kennedy, Jim Brown et Clint Walker. Et le cinquième, ça devait être Richard Jekyll. Et il est mort avant que la prise de son puisse être faite. Donc au final, il sera remplacé par Bruce Dern.
Et Charles Bronson qui ne voulait pas donner sa voix.
Et Bruce Dern qui avait donc travaillé avec lui juste avant sur, c'est ça. Sur Mes Chers Voisins.
Et ils font des voix extraordinaires pour tous les militaires.
Des banlieusards.
Des banlieusards.
Avec évidemment un focus particulier sur Tommy Lee Jones, puisque une fois qu'il a dégagé toutes ses troupes des boîtes dans la boutique la nuit, il leur fait un discours à la Patton avec en arrière-plan un puzzle du drapeau américain. Et il te balance tout un tas de lieux communs, de phrases, de discours militaires, mais mélangés qui n'ont finalement aucun sens, mais qui sont exactement sur le même ton que ce que faisait Patton dans le film de Schaffner. Quoi. Et évidemment, Goldsmith, bah, il a dit OK pour qu'on utilise sa musique de Patton. Et là, on a carrément utilisé le thème qu'il avait fait pour Patton, tel qu'il l'avait réenregistré avec Fares Sarabande quelques années avant.
Bon, côté Gorgonite, c'est pas mal non plus. Hein.
C'est pas mal non plus. Alors, le leader des Gorgonites qui s'appelle Archer est joué par Frank Langella, qui a une voix magnifique. Et puis, il y a les trois membres du film Spinal Tap, donc Christopher Guest, Michael McKean et Harry Shearer, plus Jim Cummings.
Pour la voix d'Ocula.
Harry Shearer, si vous regardez les VO des Simpsons, vous connaissez sa voix par cœur.
Ça donne des personnages qui sont super bien foutus. Hein.
Voilà, et puis qui s'adaptent tout de suite à leur environnement, qui vont fabriquer, parce que évidemment ils ont des armes en plastique, les armes sont pas effectives, ils les jettent, ils vont se fabriquer des armes avec ce qu'il y a dans l'atelier du père.
On a aussi des fausses poupées Barbie.
Il
hein.
y a une scène extraordinaire avec les poupées Barbie.
Bah, c'est Christina Ricci et Sarah Michelle Gellar.
Et oui, exactement, qui sont, on va dire, upgradées par le commando Edith. Et on a une scène qui est littéralement une reprise à niveau de poupée de la scène de création de La fiancée de Frankenstein avec la musique de La fiancée de Frankenstein.
Avec la musique de Franz Waxman dessus. Ouais.
Voilà, donc c'est absolument hilarant dans le film. La collection de poupées, ça s'appelle des Gwendy Dolls ou un truc comme ça dans le film. C'est des Barbies en fait, qui sont toutes hirsutes et extrêmement dangereuses. Et il y a un fight entre les humains et les poupées qui est assez rigolo.
On a peut-être un deuxième morceau.
Alors, on a peut-être un deuxième morceau. On va mettre en gros le thème du commando Elite. C'est un morceau qui s'appelle Assembly Line. Il est tout au début du film. C'est quand on voit la fabrication des jouets, l'insertion des puces, etc. C'est la marche militaire du commando Elite, sachant que le personnage principal qui est interprété par Tommy Lee Jones, qui s'appelle Chip Hazard, sera lui personnifié par un truc que je crois qu'on n'entend pas dans ce morceau-là, mais qui est un motif à la guitare électrique, avec beaucoup de réverb qui revient quasiment dès qu'il est à l'écran, on l'entend en fait.
Sachant que son nom, Chip Hazard, annonce ce qui va être la problématique du film, c'est-à-dire le fait que la puce qu'ils ont à l'intérieur va partir en vrille.
C'est ça, exactement. Et donc on écoute The Assembly Line et on revient. Thank you.
Bon, comme tu le disais, Olivier, Rafik aussi d'ailleurs, ce sont les jouets qui sont les véritables héros du film, d'autant plus qu'ils sont animés par l'équipe de Stan Winston et aussi par ILM.
Alors, en fait, oui, au départ, évidemment, Joey Dante était parti sur du practical effects. C'est quand même, surtout à l'époque, beaucoup plus confortable pour un réalisateur de pouvoir réaliser son film en ayant les choses sous les yeux, etc., de voir ce qu'il fait. Sauf qu'en réalité, ils se sont aperçus en cours de production que l'image de synthèse allait leur sauver la mise à plus d'une reprise.
Ils ont inversé les proportions, en fait. Ça devait être deux tiers de marionnettes, un tiers de synthèse, et ça a été l'inverse.
L'image de synthèse avait fait tellement de bons de géants.
Ah, bah là, oui, ça commençait à devenir sérieux. Et d'ailleurs, le résultat est hyper bluffant. Hein. Ça marche très, très, très bien.
À l'image, c'est globalement quand les personnages sont plutôt en gros plan, pas entièrement présents dans le cadre, que c'est des marionnettes. Et dès qu'ils marchent, dès qu'ils font des actions, des mouvements, tout ça, c'est plus de la synthèse.
Oui, oui, pour des scènes très compliquées. Enfin, il y en a toute une scène de poursuite où ils sont autour d'une bicyclette et tout ça, s'accrocher dans tous les sens, à courir.
Ça aurait été infaisable avec des marionnettes. Quoi. Mais le résultat, au final, on ne fait pas vraiment la différence entre l'un et l'autre. Quoi.
Mm. Non, ça marche bien. Bah, le budget était conséquent. Hein. 40 millions de dollars, c'était quand même.
Encore une fois, production DreamWorks qui se voulait dominer l'été, ils annonçaient même le début d'une franchise, etc. Donc je dirais que c'est presque... Bon, moi, c'est ce qui m'a gêné à la sortie du film, c'est qu'il y avait quand même un côté, encore une fois, très opportuniste et cynique, qui existait déjà à l'époque de Gremlins, hein, je ne le nie pas, mais j'avais pas la sensation que, contrairement à Gremlins, que Small Soldiers se mettait au-dessus de ça. C'est-à-dire que les considérations commerçantes de la production, je les sens dans le film, en fait.
Oui, qui sont pas du tout les considérations de Joe Dante, qui n'aurait jamais accepté le film sinon, parce que lui il faisait un truc avec une vision très satirique de l'esprit corporate, de toutes ces saloperies de mecs en costume qu'on voit au début du film qui font des jouets avec des armes de guerre.
Il y a effectivement des moments de gréminserie au sens où Dante vient un peu attaquer ce qui est mis en scène dans le film. C'est assez rare. Il y a un moment qui évidemment fait marrer toute la salle à l'époque, c'est que les Small Soldiers décident de lancer une guerre psychologique en fait contre les héros qui sont coincés dans la maison et leur balance les Spice Girls à fond dans le jardin. Quoi.
Ouais.
Ça, c'est du Joey Dante, sans doute.
Bah oui, oui, bien sûr. Mais le film est drôle. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas aussi bien que Gremlins sur moi ou sur le public en général, puisque le film n'a pas vraiment marché. Hein.
Parce qu'en fait, il s'adresse à des publics différents. Encore une fois, il était parti sur du edgy pour adolescents.
C'est ça.
Et en cours de production, on leur a dit non, mais en fait, il faut quand même que ce soit pour les mômes. Donc, il a fallu adoucir, arrondir les angles, faire quelque chose de plus tendre.
Tout en gardant un double sens dans les dialogues.
Donc, en fait, c'est un film qui ne sait pas exactement à qui il s'adresse. En plus de ça, au niveau d'écriture, c'est, encore une fois, ce n'est pas la perfection de Gremlins. Ça augure d'ailleurs de quelque chose qui va s'installer à Hollywood qui est mettons tout ce qu'on peut et puis on verra bien de quoi il en ressort. Et je ne vous apprendrai rien de surprenant si je vous avoue que ce film a servi de base à deux scénaristes qui sont Elliot et Rossio, qui vont plus tard faire une série qui s'appelle Pirates des Caraïbes. Et donc c'est déjà la formule en place, quoi. À la fois cynique, à la fois film de commerçant, film de studio, et en même temps on essaie de vous faire croire que non, mais en même temps on s'en moque, et en même temps on sait pas exactement ce qu'on vous raconte.
Mais Joe Dante essaye quand même de sauver les meubles et de faire son film. Il n'y a pas Spielberg pour le protéger non plus.
Le film est pas mal. Je me demande si la formule est peut-être un petit peu passée de mode.
Je pense que la formule était trop voyante. J'ai le souvenir à la sortie du film que personne n'était dupe, que là, pour le coup, c'était un film de corporate. Quoi. Il n'est pas aussi puant qu'une production de Disney Marvel, à titre personnel en tout cas. Mais on s'approche quand même d'un cynisme malvenu, je trouve. Après, encore une fois, à son humble niveau, Dante se fait plaisir. Encore une fois, quand il te reprend la chevauchée des Valkyries d'Apocalypse Now sur une maquette d'hélicoptère qui traverse une baraque.
C'est clair, il y a plein de morceaux comme ça qui sont repris. Il y a aussi When Johnny Comes Marching Home qui est repris plusieurs fois, Patton, La fiancée de Frankenstein, etc. Mais à côté de ça, il a évidemment écrit un score tout à fait solide, et puis en plus un score avec une consonance militaire qui carrément rappelle un peu Air Force One par moment, quoi. Ouais. Il joue pas du tout la comédie, en fait. Encore une fois, la comédie, elle est dans le film, il a pas besoin de la souligner en musique. Donc lui, il approche les choses de manière très premier degré.
Moi, le score auquel ça me fait le plus penser, c'est Executive Decision, en fait, plus que Air Force One.
Mais son cœur est pas là, Goldsmith. Son cœur, il est du côté des Gorgonites, pour qui il va faire le plus beau thème du film. Et ce sont des personnages qui sont effectivement le cœur émotionnel du film, parce que eux aussi ils ont des puces, eux aussi ils apprennent,
bien sûr.
Mais ils apprennent en fonction de leur programmation, et leur programmation c'est de survivre, de se défendre. C'est pas des guerriers, c'est pas des gens qui attaquent. Ils vont le faire à un moment donné parce qu'ils sont un peu obligés, mais globalement ils sont très très proches des humains, en fait. alors qu'ils ont des têtes de monstres complètement difformes. Quoi. Il y a une créature, c'est littéralement la créature de Frankenstein. Mmh.
C'est les Freaks.
Sauf Archer, qui est quand même une espèce de, d'homme animal.
On ne sait pas trop ce que c'est entre
un puma ou...
Un fauve, en tout cas.
Mais il a l'air assez distingué. Tu
mais
vois,
avec un corps d'homme.
Donc il ne fait pas Freaks, lui. Hein.
Il fait chef indien.
C'est ça, il fait chef indien, exactement.
Mais la voix lui donne beaucoup de poids aussi. En plus, il est assez parfait dans le rôle. Et lui, il pose carrément des questions existentielles du genre, mais si on sent le vent et qu'on ne le voit pas, peut-être que la terre qu'on doit trouver, qui s'appelle Gorgone, parce qu'ils ont été programmés pour ça, pour retourner à Gorgone, peut-être qu'on ne la voit pas, mais elle existe aussi. Et du coup, ils vont partir à la fin du film dans un bateau à la recherche d'un truc qui n'existe pas, en fait. C'est encore une fois un peu doux amer, comme un peu tous les films de Joe Dante, finalement. Il y a beaucoup de comédie, de gros délires, mais il y a aussi toujours une tristesse un peu sous-jacente des personnages, ou en tout cas de certains personnages.
Oui, une mélancolie, clairement, dans le personnage de Archer. On va peut-être écouter encore un petit morceau, parce que...
Oui, franchement... on va terminer justement avec la version finale du thème des Gorgonites, qui est un truc très noble. C'est vraiment le guerrier honorable, un peu presque le samouraï, tu vois. Sauf que c'est pas des samouraïs, c'est des monstres dont la capacité première est de savoir se cacher. Et d'ailleurs, on les retrouve à un moment cachés dans une poubelle dans le film. Et donc, ce thème, on le retrouve aussi dans les séquences d'action. On peut pas tout vous mettre, malheureusement. Encore une fois, il y a trop de choses dans l'album pour vous mettre tous les thèmes et tous les morceaux
qui étaient sortis à l'époque.
Qui étaient sortis à l'époque, mais qui étaient à l'époque des albums courts.
Encore,
de 30 minutes. C'était très très court. Et il y a une intégrale qui est sortie également chez Varès depuis. Donc maintenant, on peut jeter les vieux bootlegs qu'on avait.
Ça s'appelle comment, ce morceau?
Et ça s'appelle Off to Gorgone.
Ah bah voilà.
Et vous allez voir, c'est doux, c'est délicat, et puis ça s'envole un petit peu à un moment donné, avec un très très beau thème qui est très Gullsmithien, encore une fois.
On écoute ça avec plaisir. Thank you. c'est du grand Goldsmith. Hein.
Goldsmith, fin des années 90, c'est The Edge et River Wild.
C'est ça, c'est ça.
Pour moi, c'est vraiment dans le même tiroir que le thème de Star Trek Force Contact aussi.
Ouais, c'est bien, hein, c'était beau ce qu'il faisait à l'époque, hein, ça avait la classe.
Et jusqu'au bout, la classe. Hein.
La grande classe.
Juste pour nous rappeler qu'il a été question d'une suite à Small Soldiers qui s'appelait Toy Mageddon, qui devait être réalisée par Justin Lin, voilà, et qui ne s'est pas faite. Et on est tous très tristes.
Bon, allez, on s'attaque au dernier film.
On s'attaque au dernier film qui n'est pas par hasard le dernier film. C'est le dernier film mis en musique par Jerry Goldsmith. Donc c'est encore un peu triste. C'est pas un film triste du tout. Un film compliqué.
Oui, film compliqué, mais d'autant plus compliqué que ça aurait dû être le Dream Project de Joe Dante.
Clairement.
Puisque donc depuis le début, on rappelle à quel point son amour pour le cartoon, et notamment les cartoons apocalyptiques de la Warner, a nourri sa cinéphilie. Et il a enfin l'occasion de travailler avec les personnages du catalogue Warner.
Voilà, mais ça démarrait pas bien parce qu'il voulait faire ce film-là pour relancer le succès pas mérité du tout qui avait été remporté par un film qui a cartonné aux États-Unis, pas du tout en France, qui s'appelle Space Jam, avec Michael Jordan.
Le basketteur.
Qui fait d'ailleurs un petit caméo dans le film de Jordan. Dante, lui, détestait Space Jam. Il trouvait qu'on avait complètement violé l'intégrité des personnages de toutes ces créatures de cartoons que lui connaît par cœur et que lui sait exactement comment adapter sans les trahir. Mmh. Et il trouvait que Space Jam, c'était une trahison absolue de tout ce qu'ils étaient, que non, tu fais pas faire du Smurf à Bugs Bunny, que ça n'a pas de sens en fait.
Non mais Space Jam c'était une trahison de l'humanité tout entière.
Voilà, et pourtant il y a eu une suite, hein, là, il y a 2 ans. Et donc au final, il a fini par accepter la proposition de faire donc ce film qui s'appelle Looney Tunes Back in Action. Pourquoi il l'a accepté? C'est d'une part parce qu'il avait commencé à avoir du mal à trouver du taf, parce que il avait quand même une bonne série de films qui n'avaient pas marché derrière lui. Et en plus de ça, Chuck Jones était mort et il avait envie de rendre hommage à Chuck Jones et il voulait surtout préserver l'intégrité des Toons. Et il savait que si on laissait n'importe qui faire le film, ça n'allait pas être le cas et que le seul moyen de le faire, c'était lui de se lancer dans le projet.
De s'impliquer.
Il le regrettera amèrement puisque pour lui, c'est ce qu'il dira après, c'était les 18 mois les plus difficiles de sa vie. Ça a été un enfer le tournage du film, à tout point de vue.
Ça avait été au départ initié comme une suite, effectivement, une suite directe à Space Jam. Il était encore question d'un match de basket disputé, etc. Il y avait toute une embrouille avec Michael Jordan aussi, qui en fait n'avait pas signé, mais un des producteurs qui gérait le film avait fait croire que Jordan avait signé le contrat pour faire avancer le développement. Enfin, ça a été tout un pataquès, quoi. Après la mort de Chuck Jones, effectivement, Joe Dante a accepté de reprendre la main sur cette production et surtout de modifier complètement le cours du récit, quoi. Il n'était plus question d'aller disputer un match, prioritairement pour rendre hommage à son maître récemment disparu, avec l'aide aussi d'animateurs plus jeunes, mais qui avaient quand même pas mal de carrière. Il y avait notamment Bob Camp qui était très investi dans le projet. Bob Camp, vous le connaissez peut-être pour la série des Ren and Stimpy Show, qui sont des dessins animés hyper agressifs que personnellement j'aimais bien. En fait, le projet sur lequel Dante bossait n'était pas envisagé comme un film de cinéma, mais comme une production HBO, qui devait s'appeler Termite Terrace. Et la Termite Terrace étant le nom qui était donné au studio Warner, puisque en fait, ce studio d'animation avait été monté à côté du studio Warner, pas dedans, mais à côté, et c'était dans une cabane bouffée de termites, en fait. Et donc le terme est resté comme une désignation. Termite Terrace, c'est ce qui désigne la culture des animateurs Warner, tellement bordélique qu'on est obligé de les mettre dans la cour, quoi, si tu veux.
Et c'était effectivement un film développé par Warner Animation, dont ce sera d'ailleurs le dernier projet.
Il y a une chose que j'ai toujours trouvé étonnante, c'est pourquoi le chemin de Dante n'a pas recroisé celui de Spielberg, qui à l'époque a un deal avec la Warner, avec le dessin animé Animaniacs, qui reprend aussi en partie l'esprit de l'animation des personnages Warner, quoi. Je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Ça aurait donné un autre film. En tout cas, il aurait eu quelqu'un de plus solide pour le protéger dans sa production.
Voilà, et donc ça parle de quoi, Looney Tunes?
Je ne sais plus.
Le scénario a pas beaucoup d'importance. En fait, c'est juste une ligne narrative pour justifier les scènes de gags qui s'enchaînent.
C'est ça. Non, en gros, c'est une mise en boîte de la façon avec laquelle fonctionne Hollywood. En gros, Daffy Duck n'est pas content
de son traitement vis-à-vis de Bugs Bunny dans les films. Du coup, il fait chier. Du coup, il est viré par une productrice de Warner qui est jouée par Jenna Elfman. Et comme il commence à mettre le dawa à l'extérieur du studio, on le demande à un garde de sécurité joué par Brendan Fraser de le virer. Il poursuit Daffy Duck, ça se transforme en catastrophe et il finit par faire tomber l'énorme château d'eau du studio. Et donc Brendan Fraser se fait aussi virer. Et Brendan Fraser, c'est le fils d'un acteur qui est en gros Pierce Brosnan à l'époque, c'est-à-dire là c'est Timothy Dalton qui le joue dans le film, qui en gros joue James Bond, mais qui en réalité est un vrai espion. et qui se retrouve capturé, qui demande à son fils de venir le libérer, de l'aider. Et ils vont partir dans une espèce d'aventure qui va les emmener à Las Vegas, dans le désert, dans la zone 52, et non pas 51, à Paris, etc. Brendan Fraser et Jenna Elfman, plus Daffy Duck et Bugs Bunny.
À Paris, où d'ailleurs, quand tu sors du Louvre, tu te retrouves en face de la Tour Eiffel sur...
Il n'y a pas la scène, elle n'existe pas la scène, il y a un parc à la place.
Et des affiches de films de Jerry Lewis partout.
Donc voilà, et c'est-à-dire c'était une scène qui a été imposée à Dante, mais il y a plein de trucs
mais tout a été imposé à
le
Dante.
Le début c'est pas lui, la fin c'est pas lui.
Non, mais...
Et surtout, il avait un scénario, il avait quand même réussi à avoir un scénario qui tenait à peu près la route, même si c'était un prétexte à mettre des gags, avec un scénariste. Au final, sur le film, il y aura 25 scénaristes. Je déconne pas. 25 mecs qui étaient là pour écrire des scènes de gags, et donc le truc n'a plus ni queue ni tête au bout d'un moment, quoi. Surtout que c'est très loin d'être drôle tout le temps.
Non, mais comme je disais dans un épisode précédent, j'ai eu la chance d'être le chauffeur de Joe Dante sur un festival dans le sud de la France pendant quelques jours, et on a parlé de ce film parce que c'était horrible pour lui. C'était un souvenir très très douloureux, et surtout, ce qui l'avait frustré terriblement, c'est qu'il n'avait la main sur rien. Il était là pour rien, en fait.
Ah, il avait zéro contrôle créatif.
Donc, il disait moteur, action, merci. Donc, si tu veux, c'est hyper frustrant d'être dans l'univers que t'adores, les personnages que tu vénères, et tu peux rien faire. En plus, avec un casting incroyable, parce que Brendan Fraser, lui, était au top de sa popularité.
Et c'est d'autant plus frustrant que Brendan Fraser, quelques années auparavant, avait joué dans un film qu'aurait pu être le sujet
de
Looney
Tunes. Le fameux Monkey Bone,
voilà, qui était vraiment l'histoire d'un créateur de personnages animés dont le corps est possédé par la créature.
Qui est nettement meilleur.
Sauf que là, c'est un peu plus Georges de la Jungle, en fait.
Oui, c'est ça, voilà. Donc,
qui est nettement meilleur Monkey Bones que.
Non, mais Monkey Bones, c'est un film d'Henry Selick, effectivement. Qui parle de lui-même, quoi. C'est un film d'animateur qui parle de ce que c'est qu'être un animateur. Et c'est un film que je recommande, effectivement. Mais c'est vrai qu'en faisant un film comme Looney Tunes, on aurait espéré que Joe Dante puisse parler de lui et de son amour réel pour cet univers, et il n'en a pas du tout l'occasion.
C'est le seul film où il n'est pas du tout dans le film, en fait.
Il est juste là pour sauver les meubles, d'une certaine manière. Effectivement, en regardant le film, c'est pas Space Jam. On est d'accord là-dessus qu'à aucun moment, l'héritage des animateurs légendaires de la Warner n'est jamais mis à mal. C'est-à-dire Daffy Duck, il fait du Daffy Duck. Bugs Bunny, il est Bugs Bunny,
etc. Oui, il n'y a pas de trahison des personnages.
Voilà.
En fait.
Ils ne font pas du Smurf, ce genre de choses.
Mais il a dû batailler pour chaque dialogue, chaque truc. À un moment donné, au tout début, on voit la première apparition de Bugs Bunny, il arrive avec sa carotte et il dit « What's up, Doc ?» Et ben, ça a été remis en question. Est-ce qu'il doit dire ça? Pourquoi il dit ça? Vous voyez les films, quoi.
Vous voyez vos dessins animés,
tout ce qui a été fait avant. Et les mecs n'avaient pas cette culture-là, en fait. Le film a été finalement écrit, dialogué par des gens qui sont des gens qui ne seraient pas allés voir ce genre de film au cinéma. Ils n'auraient même pas traversé la rue pour le voir, quoi. Donc c'est vraiment problématique et le résultat forcément reflète ça. Dante disait qu'il y avait un truc de bien dans le film qui était bien meilleur que le film, c'est le score de Jerry Goldsmith.
Jerry Goldsmith qui à l'époque est déjà à la santé déclinante. Hein,
clairement, on va en parler après.
On va peut-être
écouter un morceau. Ouais. Et on va écouter le morceau de la scène qu'on vous décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire quand Daffy Duck se fait virer par le studio et qu'il sort et qu'il est poursuivi par Brendan Fraser jusqu'à la chute du château d'eau. Et c'est un morceau qui s'appelle Dead Duck Walking. Thank you.
Bon, alors c'est marrant parce que bon, Goldsmith fait le taf comme d'habitude, mais là, il y a, c'est vrai qu'il y a un peu le côté Mickey Mousing qui n'est pas courant chez Goldsmith.
Il est logique dans le film.
Oui, bien sûr.
Film. Et c'est d'ailleurs, enfin, le film est vraiment conçu. Tu parlais de Georges de la Jungle tout à l'heure, mais c'est ça. Enfin, il y a aussi l'idée que la musique, elle doit être là tout le temps, justement pour qu'on évite au maximum d'avoir à faire un film entre guillemets normal. On a quand même beaucoup de scènes de dialogue entre des comédiens, entre Jenna Elfman et Brendan Fraser, etc., qui en soi sont pas très engageantes. Mais par contre, derrière, t'as la musique à fond qui te fait comprendre que t'es en train de regarder un film cartoon, quoi.
Oui, puis en plus, il fallait une grande expertise technique puisque chaque scène était tournée trois fois. Une première fois avec un truc qui était à la place des personnages animés qui devaient partager l'écran avec les humains. Puis une fois avec rien du tout. Et puis une dernière fois avec une boule qui captait la lumière pour indiquer l'orientation des effets de lumière sur les personnages qui n'étaient pas encore dans le cadre. C'était chaud pour les comédiens et c'était chaud pour tout le monde, quoi. C'était un truc assez complexe. Et d'ailleurs, techniquement, c'est très bien fait. C'est juste que c'est pas au service d'un film qui le mérite, quoi. Et Dante s'est rendu compte à un moment donné qu'en fait, le fait de proposer le film à Goldsmith, c'était une erreur parce qu'il a découvert que Goldsmith n'était pas du tout en forme. Et Jerry lui a carrément dit qu'à un moment donné, il pourrait peut-être pas faire toutes les journées d'enregistrement comme prévu. Et effectivement, il y a des moments à l'enregistrement où Goldsmith pouvait pas rester jusqu'à la fin de la journée et que quelqu'un d'autre prenait le relais derrière. D'autant plus que son équipe fidèle sur laquelle il s'appuyait depuis toujours était un peu réduite puisque Arthur Morton était mort, je crois, et Alexander Courage avait pris sa retraite. Enfin, il restait plus grand monde. C'était déjà un peu triste. Et effectivement, Goldsmith a pas pu faire la totalité de la musique du film. Donc la dernière bobine a été mise en musique par John Debney. Ça se voit pas en fait que c'est pas Goldsmith, puisqu'il a réutilisé les thèmes de Goldsmith déjà, et puis qu'il a fait du bon boulot. Il sait maîtriser un orchestre, Debney.
Il est plus que ça.
Goldsmith, ça fait quand même une heure de musique, et une heure de musique non-stop, frénétique, avec des changements de ton sans arrêt, puisque tout est calé, en fait, tout est mathématiquement composé autour des mouvements des cartoons qui sont tout le temps à l'écran. Donc c'est un boulot déjà pour un compositeur en forme qui est énormissime, quoi. Et il a pas lâché. Et Dante disait, j'ai réalisé à quel point il était courageux de finir le film comme ça. Pour moi, et ce sera son dernier film, parce qu'après, il était plus du tout en état de faire quoi que ce soit, il n'arrivait pas à se concentrer et tout, voilà. C'est pas mal de finir là-dessus, finalement, malgré la qualité du film, parce que le score est vraiment bien, est vraiment riche, il y a vraiment des thèmes dans tous les sens. Franchement, c'est pas du tout honteux du point de vue de la musique. Du point de vue du film, il reste effectivement pas grand-chose.
Bah, y a quand même à signaler l'excellente direction de la photo du non moins excellente Duncan Day, qu'on adore, directeur de la photo des Retours vers le futur, de Jurassic Park ou de certains films de Carpenter. Donc
on a aussi tout l'habituel casting de Joe Dante qui revient, en tout cas ceux qui étaient vivants à l'époque. On a Kevin McCarthy, Dick Miller, mais aussi il fait venir Roger Corman.
Oui, absolument. Il y a aussi Vernon Wells.
Il y a Vernon Wells qui revient également. Ron Perlman aussi qui joue un tout petit rôle.
Oui, un membre du comité du méchant. Alors le méchant est joué par Steve Martin. J'adore Steve Martin et je le trouve pas bien du tout dans le film, mais je pense que c'est parce qu'il est pas écrit comme il faut et il est pas drôle véritablement. C'est un méchant qui est tellement excessif, tellement cartoonesque, sans être un cartoon, qu'en fait ça tombe à plat, je trouve, personnellement.
Ouais, moi j'aime pas le film non plus, donc mais bon, quand je vois Steve Martin, j'ai le sourire aux lèvres parce que je l'aime beaucoup.
Voilà, il y a aussi un rôle assez important pour Yosemite Sam, qui est le personnage de cow-boy de la Warner, avec sa grosse moustache et ses pistolets, sauf que j'ai jamais compris pourquoi en France on l'avait appelé Sam le pirate, vu que c'est pas du tout un pirate. Mais bon, les mystères de la VF sont impénétrables.
Exactement.
Et il y a pas mal de cartoons, d'autres cartoons qui font un passage dans le film. Il y a aussi toute la scène dans la zone 52 où on a plein de créatures bizarres extraterrestres, où il y a Marvin le Martien qui est un espion du méchant qui va mettre le Dawa à libérer tous les monstres qui sont enfermés. Mais tout ça n'est pas convaincant en fait. Et finalement, la scène qui est la plus convaincante, c'est simplement parce qu'elle est bien gérée par Dante, c'est la scène du Louvre, qui est pourtant un truc qu'on lui avait imposé. Lui, il voulait beaucoup plus la zone 52 que Paris, où en fait les personnages
se mêlent ou se transforment en fonction des tableaux qu'ils traversent.
C'est ça, on a Daffy Duck, Bugs Bunny et je crois que c'est Porky Pig le troisième, ils se poursuivent dans les tableaux et ils absorbent à chaque tableau le style, donc le pointillisme,
le fauvisme, l'impressionnisme, enfin ils font un peu tout le temps. Ouais,
voilà, et c'est vrai que c'est bien fait.
C'est un bon exercice pour les animateurs qui ont travaillé sur le film, effectivement.
Ça devait être un film pour Jackie Chan à la base dans le projet d'origine.
Space Jam 2 devait être un film pour Jackie Chan.
Voilà.
C'est surtout que ça devait lancer les Looney Tunes sur le grand écran. C'était ça le projet de la Warner.
Et ils ont annulé tout ce qu'ils avaient prévu derrière parce que le film a coûté 80 millions, voire, selon Joe Dante, plus de 100 millions en réalité. Pour un box-office de 68 millions, c'est pas suffisant. Hein. Et donc, on va écouter un autre morceau peut-être ?
Ben oui.
Alors, le meilleur morceau du film, c'est une séquence qui se déroule à Las Vegas, où on a Brendan Fraser et John Elfman, plus les Toons qui montent dans une voiture et essaient de s'enfuir poursuivi par Sam le pirate dans une autre voiture et ils se poursuivent en cassant un peu tout dans Las Vegas. C'est évidemment un truc qui a dû être d'une complexité terrible à faire parce que tout ce qui est interaction des Toons avec des éléments réels est vraiment très très bien fait. Tout au long du film, hein, c'est super bien fait. Ils n'arrêtent pas d'utiliser les objets du quotidien, sauf que en fait, il n'y a pas de Toon pour le tenir. Donc c'est presque Roger Rabbit en plus. Ouais. Sauf que comme c'est pas du tout bien écrit, bah on n'en profite pas plus que ça, quoi. Mais Dante, il a fait le boulot et puis surtout, il a fait le truc pour lequel il était venu, c'est-à-dire de sauvegarder quelque part l'intégrité des personnages qu'il aime depuis toujours, quoi. Et donc, ce morceau de poursuite s'appelle Car Trouble et on a un petit thème western pour Sam le Pirate qui est super accrocheur et qui va vous rester en tête après pendant, je pense, quelques jours parce que c'est difficile de se le sortir. Avec bien évidemment des tas d'instruments, de trucs, de ruptures de ton qui accompagnent l'action.
Comme Jerry sait le faire.
Voilà, comme Jerry sait le faire et comme il savait toujours le faire malgré son état de fatigue avant.
Et ben c'est parti. En effet, ça pète pas mal. Dis-moi, professeur, on parlait tout à l'heure de du travail de John Debney sur le score. Tu nous as pas donné plus de détails.
Debney, il venait d'abord en tant que fan de Goldsmith aux sessions d'enregistrement.
Oui, ça m'étonne pas.
Et à un moment donné, Goldsmith l'a vu, lui a dit tu bosses sur un film là. Et il s'est retrouvé embauché comme ça en fait.
Ah ouais.
Il est pas crédité sur l'album parce qu'il est pas sur l'album du tout.
Ah, y a pas possibilité d'entendre les morceaux si, à part dans le film.
Si, sur l'intégrale qui est sortie depuis.
Ah ouais, d'accord.
Et c'est pas le seul d'ailleurs. Il y a un ou deux autres compositeurs qui ont fait un morceau par-ci par-là. Et puis il y a aussi des adaptations de morceaux traditionnels de cartoons. Il y en a quelques-uns, dont l'ouverture qui a été arrangée par Goldsmith. Mais je dirais que 80% du score facile, c'est du Goldsmith quand même, quoi.
Ah bah oui, oui, et puis ça s'entend. Hein.
C'était plus pour l'enregistrement que c'était compliqué, parce qu'à la fin, le dernier jour, il est parti du studio à midi, parce qu'il n'en pouvait plus, en fait. Il pouvait pas rester pour l'après-midi, et ça a été son dernier enregistrement. Donc c'était un truc assez...
Bah c'est triste.
Assez triste, ouais.
Ouais, c'est triste un peu de finir sur cette note. Hein.
Pour les deux, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, Goldsmith, il est parti, donc il nous a tout simplement quittés. Mais Joe Dante, on peut aussi considérer qu'il est mort à ce moment-là. Enfin, il n'est jamais revenu de cette expérience.
Bah déjà, il a fallu 6 ans pour qu'il fasse un autre film, et puis un deuxième un peu plus tard. Mais quand on voit les films, on a l'impression que le cœur n'y est plus. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Ça, c'est mon interprétation de fan de Goldsmith. Mais je me dis que sans Jerry, il manque un bout de Joe Dante maintenant, en fait. Donc, il a fait des trucs. Il a fait de la télé. Il a fait des épisodes de séries. Bon, il a plus trop besoin de bosser. Il a 77 ans, mais...
Pendant longtemps, il a été question qu'il adapte un scénario qui avait été écrit par Tim Lucas. Alors, Tim Lucas, personnage emblématique, hein, c'est le créateur du magazine Video Watchdog, donc c'est un des rares journalistes dits bis, spécialiste du cinéma décalé, déglingué. Si vous voulez entendre un américain vous dire tout le bien qu'il pense des films de Jean Rollin, que nous-mêmes français ne regardons pas, voilà, Tim Lucas est l'homme parfait pour ça. Il est aussi le recordman du plus gros livre jamais consacré à un réalisateur en termes de volume, parce qu'il a fait un bouquin sur Mario Bava, qui je crois pèse 3 kilos, 4 kilos, un truc absolument énorme, quoi. D'ailleurs, la pub du bouquin, c'était une gamine qui était écrasée sous le livre, littéralement. Et Tim Lucas avait écrit un script qui s'appelait The Man with the Kaleidoscope Eyes, qui était consacré à un épisode complètement dingue de l'histoire de Roger Corman. À l'époque où Jack Nicholson et Peter Fonda voulaient faire le film The Trip, Roger Corman, pour essayer de comprendre le film qu'ils allaient faire, avait pris du LSD. Donc il faut imaginer Corman, qui est un peu un mec du monde d'avant, quoi, en train de se bouffer un trip LSD, qui en fait a complètement changé sa vie, quoi, d'une certaine manière. Et ça racontait ça. Et en fait, à travers ça, on allait évidemment parler du système Corman, quoi, dans lequel Joe Dante avait démarré. Et ça, je me disais, waouh, ça va être le biopic ultime, quoi, sur un sujet aussi dingo, ça va être génial. Et vivement le score de Goldsmith, tu vois, qu'on n'aura jamais sur ce truc. Alors le film, c'est pas fait. Il y a eu une lecture qui a été faite dans un cinéma à Los Angeles avec des vrais comédiens qui sont venus. Il y avait Bill Hader notamment qui est venu, qui jouait, je crois, le rôle de Corman dans la séance qui a été faite. Bill Hader étant un vrai cinéphile. Voilà. Et en fait, Dante, il a plus la force. Déjà, il a plus le nom, il a plus de poids à Hollywood.
Il a plus de soutien. Et puis, il veut plus bosser pour les studios. The Hall et Burying the X, qui sont ces deux films suivants, ont été des productions indépendantes, en fait. Il veut plus bosser pour les studios, donc il a pas non plus les moyens de faire les films qu'il est capable de faire avec des budgets d'indé. Enfin bref, non, sa carrière, elle est globalement terminée.
Donc aujourd'hui, il s'occupe de son site internet qui s'appelle Trailers from Hell, dans lequel des cinéastes commentent des bandes annonces de films avec parfois un casting assez délirant. Enfin, vous avez des Guillermo del Toro, des John Landis, des gens comme ça.
Ouais, il a du contact.
Qui viennent régulièrement parler de ces films oubliés à travers des bandes annonces complètement dingo.
Ce qui est assez ironique, c'est que juste avant la disparition de Goldsmith, son père est mort à 101 ans. Et qu'on se serait bien repris 25 ans de Goldsmith en plus s'il n'était pas mort et qu'il avait vécu aussi vieux que son père. Et surtout, juste avant la mort de Goldsmith, David Raxin est mort en 2004. Une semaine après, Elmer Bernstein est mort. Et un mois après, Jerry Goldsmith. Ça a été l'année hécatombe, en fait, pour les amateurs de musique de film. Mais Goldsmith laisse une carrière absolument incroyable, sur laquelle on aura l'occasion de revenir à beaucoup de reprises, parce que bon, on va tout traiter un moment ou un autre dans Total Tracks, parce que c'est indispensable, le mec est absolument inévitable, quoi.
Mais une carrière effectivement absolument énorme. On rappelle pour les anglophones qu'il existe un podcast américain qui s'appelle The Goldsmith Odyssey, qui s'est mis en tête de traiter absolument toute la carrière de Jerry Goldsmith. Ils en sont, je vais pas dire de bêtises, 40 ou 50 épisodes, je crois.
Ouais, et ils en sont encore aux années 60.
Ils en sont encore aux années 60, voilà. Donc bon courage à eux. On les suit de très près. rentrée.
Et alors, j'ai aussi reçu, puisque au-delà du livre, Livre des Richards, que nous éditons et qui devrait être disponible d'ici pas très longtemps, il y a aussi un livre américain écrit par Jeff Bond qui va sortir. J'ai reçu, moi, la version PDF du livre. La version imprimée n'est pas encore dispo. Franchement, les deux sont tout à fait complémentaires puisque l'approche n'est pas du tout la même. Que lui, il est vraiment factuel sur ce qui s'est passé dans la vie de Goldsmith et sur les tournages, alors que le livre des Richards, il va plus analyser la partition, son effet sur le film. Donc, les deux sont compatibles. Je pense que vous pouvez tout à fait prendre les deux sans hésitation. Voilà. Et donc, on va laisser le dernier mot à Joe Dante, qui racontait qu'il discutait avec Goldsmith un jour et qui lui pose la question. Il lui demande, mais quand tu as accepté un film, que tu as signé pour le faire, que tu as lu le script, que maintenant tu vois le premier montage et que le film, ça va pas, que c'est pourri, que ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Et Goldsmith, il dit, ce que je fais, c'est que je travaille deux fois plus dur parce que de toute façon, il faudra que ça marche. Et ça résume bien la carrière de Goldsmith, c'est qu'il a toujours fait le meilleur et pire était les films, plus donner du mal en fait. Mm-hmm. Voilà. Sur Joe Dante, il n'a pas eu trop de difficultés.
Non, dans l'ensemble,
à part le dernier. Voilà.
Dans l'ensemble, il était bien loti. Bon, je me tourne vers Rafik Djoumi, mais Rafik Djoumi, tu es en train de surfer sur Internet là. Tu ne serais pas sur un site qui s'appellerait lagrandeévasion.fr?
Comme souvent en fin de podcast, effectivement, j'ai tendance à aller voir qu'est-ce qui peut bien se passer sur la meilleure radio de musique de film au monde.
La meilleure.
La meilleure. On peut le dire, donc c'est lagrandeévasion.fr. Pendant que vous étiez en train de discuter de Joe Dante ou de je ne sais trop quoi, moi j'étais en train d'écouter du Dario Marinelli avec le score de V pour Vendetta.
Ah, pas mal,
c'est bien ça.
Voilà, et on vient d'enchaîner avec l'incroyable histoire du facteur cheval de Pierre et Baptiste Colleux.
C'est très joli ce qu'ils ont fait pour le film. J'ai pas vu le film, mais la musique est très
bien. Ce qui peut vous donner une vague idée de l'incroyable catalogue et la diversité des titres sélectionnés par notre bon professeur Desbrosses pour lagrandeévasion.fr.
Plus de 15 000 titres, hein.
D'ailleurs, on aurait dû appeler ça, non pas la Grande Évasion, mais l'incroyable radio.
Voilà. Pas la Grande Évasion, c'est bien.
Avec un logo façon RKO, tout ça.
D'ailleurs, vous allez sur Tipeee.
Ils sont déjà allés sur le Tipeee pour Total Tracks, bien sûr, mais ils ne savaient pas qu'il y avait également un Tipeee.
Mais si, ils le savent. Mais
pour la Grande Évasion, .fr.
Je me permets de leur rappeler, parce que c'est quand même le bonheur que de participer à cet effort de guerre et à cette radio incroyable qui illustre peut-être vos journées, qu'est lagrandeévasion.fr. Donc n'hésitez pas.
Merci.
On aura bientôt l'occasion de revenir un petit peu sur Jerry Goldsmith dans les épisodes à venir. On vous dit pas encore pourquoi, vous le découvrirez.
Absolument, qu'on va enregistrer la semaine prochaine, en fait, déjà. Voilà, enfin, on a plein de trucs sur...
Oh là là. Et puis on a du lourd,
table,
hein. On a du très très
voilà,
lourd.
Voilà, donc vous allez pas vous ennuyer jusqu'à l'été, ça je peux vous le promettre.
Comment on termine là? Qu'est-ce qu'on écoute de beau, professeur?
On termine avec le générique de fin de Looney Tunes Back in Action, qui, pour la dernière fois, est un joli récap de ce que Goldsmith a fait pour le film, de tous les thèmes. Donc il n'y a pas de raison de se priver.
Ben oui, on vous dit à la semaine prochaine.
Tout à fait.
Et on vous embrasse.
Et on vous embrasse très fort. Merci aux êtres de lumière d'avoir permis à ce podcast d'exister.
Eh oui.
Voilà, des gros bisous
et
aux
merci.
Êtres de lumière et à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, merci à tous.
Et merci professeur Desbrosses et Rafik d'avoir été aussi brillants pour retracer la carrière commune de Jerry Goldsmith et de Joe Dante.
Voilà, et comme on dit, that's all folks.
That's all folks, exactement. Bisous. The people.